Bonsoir. Entrons ensemble dans le temps du débat d'été consacré ce soir à la cancel culture et au débat sur la liberté d'expression aux États-Unis. À l'ordre du jour, ce soir, cancel culture, le débat est-il possible ? En français, l'expression cancel culture a été traduite parfois par culture du boycott, culture de l'humiliation publique, culture de l'annulation et caractérise des actions militantes qui, aux États-Unis, visent à discréditer une personnalité publique pour ses prises de position. Elle est au cœur, cette cancel culture, d'un texte publié le 7 juillet dans le Harper's Magazine et le lendemain, dès le 8, dans Le Monde, signé par 150 personnalités dont Margaret Atwood, Salman Rushdie, Gloria Steinem ou encore Winston Marsalis. Ce texte s'inquiète de ce que la censure, qu'on s'attendrait à voir surgir, dit le texte, du côté de la droite radicale, se répandrait aussi dans les milieux progressistes aux États-Unis. Les signataires rejettent le faux choix entre justice et liberté qu'offrirait justement cette cancel culture. Depuis la publication de ce texte, il y a moins de 10 jours, le débat est vif aux États-Unis, en particulier dans les milieux de gauche qui sont divisés face à Donald Trump, si prompt lui-même à condamner justement les manifestations actuelles pour l'égalité en les qualifiant de fascisme d'extrême gauche. Nous allons organiser ce soir un drôle de débat transatlantique entre la France et les États-Unis, puisque nous avons avec nous Thomas Chatterton-Williams. Bonsoir Thomas.
Merci pour m'inviter.
Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain américain, vous êtes auteur il y a quelque temps de Une soudaine liberté, traduit chez Grasset, et bientôt, ça sera en février 2021, de Autoportrait en noir et blanc, qui sortira lui aussi chez Grasset. Et puis avec nous, depuis les États-Unis où elle enseigne et où elle cherche, Manon Garcia. Bonsoir Manon Garcia.
Bonjour pour vous.
Bonsoir pour nous. Vous êtes philosophe, chercheuse à la Society Fellows of Harvard, et puis vous êtes autrice de On ne naît pas soumise, on le devient, en particulier aux éditions Climat.
The world is messy.
Le monde est en désordre. Il existe des ambiguïtés. Des gens qui font de très bonnes choses peuvent avoir des défauts. Les gens que vous combattez peuvent aimer leurs enfants et partager certaines choses avec vous. Et je pense que l'un des dangers que je vois parmi les jeunes gens, et en particulier sur les campus universitaires, et cela s'est accéléré avec les médias sociaux, c'est ce sentiment répandu chez les jeunes que si je veux changer les choses, alors il faut que je sois aussi critique que possible envers les autres. Et c'est tout. Si je tweet ou hashtag sur la façon dont vous n'avez pas bien fait quelque chose ou utilisé le mauvais mot ou verbe, alors je peux me rasseoir et me sentir plutôt satisfait parce que vous voyez à quel point je me suis mobilisé. Je t'ai interpellé publiquement. Ce n'est pas du militantisme. Cela n'apporte aucun changement.
Et nous avons la chance d'avoir avec nous Xavier Combes. Bonsoir Xavier Combes.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous allez traduire à la fois à Thomas Chatterton-Williams ce que dira Manon Garcia depuis les États-Unis, mais également mes questions et traduire également ce que nous répondra Thomas Chatterton-Williams. On vient d'entendre une voix bien connue. C'est celle de Barack Obama. C'était au printemps, à l'automne dernier, en 2019, et il s'exprimait devant la Obama Foundation. Et il y a, dans cet extrait, il y a tout ce que vous dites, plus ou moins, dans le texte que vous avez co-signé avec 150 personnes, écrivains, universitaires, et qui a été publié dans Le Monde. On entend jeunesse, critique, et on entend aussi réseaux sociaux et ce défaut qu'il y aurait dans les réseaux sociaux de propager cette culture de la critique vis-à-vis de certains universitaires, mais aussi vis-à-vis de certains intellectuels. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Thomas Chatterton-Williams, en publiant ce texte il y a une dizaine de jours ?
Sure. We wanted to say that there is a kind of climate or a mood.
Nous voulions dire qu'il y a une sorte d'ambiance qui commence à prendre le pas dans nos institutions culturelles, dans les médias. Ça dure depuis un certain temps, il n'y a pas un seul incident ponctuel. Hein. C'est assez ancien, ça commence à remonter. Ce texte est le résultat d'une discussion entre moi et quatre autres auteurs.
George Packer, Mark Lilla, Robert Worth, and David Greenberg. It was an ongoing conversation.
C'était une discussion qui a duré un certain temps.
And the idea was that there were several incidents that caught our attention this past spring.
Plusieurs incidents ont retenu notre attention au printemps.
One of the worst was the case of a young man named David Shore.
C'était le cas de David Shore.
Who is a data analyst at a place called Civis Analytics.
Il travaille sur Civis Analytics.
And after the riots,
et après les émeutes suite à la mort de George Floyd,
tweeted research.
Il a envoyé
un
tweet à propos de travaux de recherche menés par un universitaire noir. Je déteste utiliser ce mot, mais bon, en l'occurrence, c'est utile que j'explique.
And the research simply
et
was about
cette étude portait sur la protestation violente et si elle pouvait nuire aux démocrates en année électorale.
And so he was fired for
il a donc été remercié. Il n'y avait aucun commentaire. Il a simplement envoyé sur son tweet les propos de l'étude qui avait été menée. Donc il y a une espèce de panique morale qui empêche les gens de réfléchir de manière objective et tout à fait sensée.
Est-ce que c'est un débat purement américain, selon vous, Thomas Chatterton-Williams? Est-ce que c'est un débat qui se pose d'abord aux États-Unis et qui peut se poser ailleurs? Et pourquoi, justement, les États-Unis sont le lieu de naissance de ce débat, même si ce débat pourrait venir ou est déjà peut-être chez nous sans que nous le sachions véritablement?
Pas du tout. It's not just a problem in America.
Ce problème n'est pas qu'américain.
This was a letter that was signed
cette lettre
by,
a été signée
one of my favorite par French language authors, Kamel Daoud.
Kamel Daoud, qui vient d'Algérie, donc un de mes auteurs francophones préférés.
It was signed by,
signé également
writers in England
par des auteurs en Angleterre et d'autres pays.
And the conversation is, in the UK is quite intense
au Royaume-Uni, le débat fait rage, mais il va faire rage en France aussi.
Vous avez répondu depuis la publication de ces textes à des dizaines d'interviews en France, mais également dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous disent ceux qui vous interpellent et qui vous disent « on est intéressé par ce texte » Qu'est-ce qu'on vous demande, d'une certaine façon, depuis la publication de ce texte?
What are the questions asked to you? What do people request from you since the book?
Most people want to understand why now.
La plupart des gens veulent comprendre pourquoi ce problème se pose maintenant.
And is it not in reaction
et
to
on me demande si ce n'est pas en réaction par rapport à une démocratisation tout à fait nécessaire.
And my response to that is
et
that,
moi, je réponds en disant que l'époque actuelle, ce n'est pas effectivement le moment le plus opportun. Parce qu'en effet, il y a la pandémie et puis aussi la menace de la réélection de Trump. Mais en corrigeant ces problèmes dans notre société, il faut veiller à ce que la surcorrection ne nuise pas à nos libertés fondamentales.
Alors nous sommes avec vous, Manon Garcia, je rappelle que vous êtes philosophe, que vous enseignez ces temps-ci à Harvard et que vous connaissez très bien l'université américaine pour y enseigner. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous vivez dans les propos qui viennent d'être tenus par Thomas Chatterton-Williams et plus largement dans ce texte publié dans le Harper's Magazine et traduit en France, dans le monde, mais également dans beaucoup d'autres pays depuis sa publication le 7 juillet?
Alors, je suis un peu partagée en vous répondant parce que je pense que personne ne peut être en désaccord avec la position normative tenue par cette lettre, qui relève quand même de la platitude et qui dit voilà, le débat ouvert, c'est très important et c'est bien de se battre pour la justice, mais il faut préserver la liberté. Bon, il me semble que c'est une platitude, et que la question, c'est de savoir à quoi sert cette platitude. Moi, je suis d'accord que le débat, c'est très important. Il se trouve que ça fait plusieurs années que j'enseigne sur les campus américains, que j'enseigne des questions qui sont typiquement les questions sur lesquelles les gens se disputent et sur lesquelles, soi-disant, il y a cette culture de l'annulation, et on pourra y revenir. Et moi, c'est pas du tout l'expérience que j'ai eue. C'est sûr que ce que j'ai vu dans mes salles de classe, c'est que, bah, par exemple, mes étudiantes aient très envie qu'on leur explique que les femmes sont naturellement inférieures aux hommes et doivent donc rester à la maison, et que donc quand ça arrive, elles expliquent à la personne qui tient ces propos que c'est sexiste et elles expliquent pourquoi. Mais je vois pas tellement le problème, de la même façon quand mes étudiants de couleur, je sais pas, par exemple, j'ai enseigné l'année dernière des textes de Martin Luther King ou de Malcolm X en classe. Bon, ben, il y a eu des débats parfois houleux entre les étudiants, mais justement, qui me semble relever du débat ouvert que la lettre appelle de ses voeux. Donc, je sais pas très bien quel est le but, en fait, de cette lettre. Parce que il me semble pas que je suis pas d'accord avec le constat selon lequel il y aurait un danger porté sur la liberté d'expression. Dans le cas que Thomas Chatterton Williams mentionne de David Shore, c'est un cas avec lequel je pense tout le monde est apparemment en désaccord, à ceci près qu'en fait on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que son employeur a refusé d'expliquer pourquoi il avait été renvoyé. On a de bonnes raisons de penser qu'il a été renvoyé à cause de ce tweet, mais en fait, on n'en sait rien. Et c'est vrai que si c'est le cas, c'est vraiment regrettable et c'est pas. Mais vous voyez bien que, en fait, c'est un cas isolé. Et que la question, c'est de savoir quelle est la fonction des platitudes qu'on utilise. Et il me semble que, si vous voulez, il y a un parallèle qui est intéressant à faire, qui est le parallèle au moment du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, donc qui dit les vies noires comptent. Il y a beaucoup de gens contre le mouvement Black Lives Matter qui ont affirmé All Lives Matter. Donc toutes les vies comptent. Sauf que tout le monde est d'accord que toutes les vies comptent. La question, c'est quel est l'usage des platitudes ? Mais là, l'usage de la lettre de Harper, c'est de dire « Bon, c'est sympa vos manifestations contre la violence policière, mais il faut quand même être poli. » Et moi, je pense que politiquement, c'est problématique de considérer qu'il est plus important de rappeler à l'ordre les gens qui s'expriment en étant en colère, etc., que le progrès social, voilà.
Voilà, une des remarques que vous voulez faire, justement, Manon Garcia, à Thomas Chatterton Williams, pendant que Xavier Combes traduisait vos propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression, la platitude, l'évidence, d'une certaine façon, de ce que vous affirmez dans cette lettre, qui ne mériterait pas, justement, d'être aussi répandue, comme le dit Manon Garcia? Et cette idée aussi qu'il faudrait être poli pour pouvoir s'adresser cette violence verbale que vous semblez regretter dans le débat public américain ces temps-ci, Thomas Chatterton Williams.
Stating the obvious and lightness.
I want to emphasize that I think I agree.
Avant tout, moi, je veux dire que je suis d'accord avec Manon Garcia.
Obviously, Black Lives Matter.
À l'évidence, Black Lives Matter, c'est un mouvement vital, fondamentalement important, et beaucoup de débats fonctionnent très très bien dans le milieu universitaire. Sur ce sujet. Nous disons ce que Camus a dit, et je vais faire une paraphrase, on ne peut pas avoir la justice dans un environnement qui n'est pas libre. La liberté et la justice vont de pair, pour paraphraser Camus. Donc, il y a des milieux où vous avez parlé d'humiliation publique au début, quand vous avez dans votre définition de la cancel culture. Et donc, on n'a pas besoin de beaucoup de David Shore. Il n'en faut qu'un petit nombre.
Et
ce petit nombre existe, évidemment. Et ensuite, on voit en quoi il est victime et on a tendance à s'auto-censurer et on rétrécit le périmètre du débat.
Et vous pensez donc que ce débat est plus large que ce que dit Manon Garcia, qui dit, ben voilà, il y a un exemple, mais ça n'est pas des dizaines et des dizaines d'exemples que nous avons sous les yeux.
Noam Chomsky, signataire de cette lettre, et tous les gens avec qui je suis en contact ont eu la même expérience que moi, à savoir qu'il y a des milliers de réponses à cette lettre. Ce sont des gens qui sont assez célèbres, la plupart sont d'illustres inconnus. Et ces gens-là nous disent merci de rendre les choses un petit peu moins contraintes dans mon cabinet d'avocat ou dans l'université où je travaille ou dans mon entreprise.
Et
les gens qui sont des illustres inconnus nous disent moi je n'ai pas le pouvoir de m'exprimer donc je ferme ma gueule. Donc ils disent, lorsque J.K. Rowling ou Margaret Atwood s'expriment, eh bien, ils parlent au nom des gens qui sont sans voix.
Manon Garcia.
Alors moi, sur l'histoire de parler au nom des gens qui sont sans voix, c'est vrai que je suis un peu sceptique vu la liste des signataires. Et c'est vrai que J.K. Rowling a une voix pour le coup. Enfin, la plupart de ces signataires sont des gens qui ont vraiment accès à la parole. Et je pense que si vous voulez, quoi que vous disiez dans les médias, il y a des gens qui vont vous remercier. Moi aussi, on me remercie de dire ce que personne n'ose dire, parce que quand vous êtes caissière dans un supermarché, vous pouvez pas dire que le patriarcat ça rend votre vie invivable, si vous voulez. Il y a toujours, vous êtes toujours le porte-parole de gens. Ça veut pas dire que ce que vous dites est particulièrement nécessaire. Moi, ce qui m'intrigue un peu, il y a deux choses qui m'intriguent. Premièrement, je pense qu'en effet, les gens font un peu plus attention à ce qu'ils disent et que c'est pas du tout le cas en France, mais c'est le cas aux États-Unis, il est de moins en moins acceptable de tenir des propos racistes, sexistes et homophobes dans le débat public comme dans les conversations privées ou professionnelles. Mais je pense que c'est plutôt une raison de se réjouir. Et j'ai pas l'impression que les gens soient que la liberté des gens soit bafouée par le fait qu'ils ne puissent plus tenir ces propos-là, des propos de bestiaire dont on a eu l'habitude. D'autre part, je pense que, par exemple, une partie des exemples qui sont donnés dans cette lettre, comme le cas de l'éditeur du New York Times qui a dû démissionner à la suite de l'éditorial de Tom Cotton, on peut considérer James Bennett. On peut considérer que c'est regrettable, mais si vous voulez, il y a beaucoup de gens parmi cette gauche qui promeut des politiques de l'identité contre laquelle cette lettre est écrite. Si vous voulez, ils prennent beaucoup plus de risques. Moi, mes collègues qui sont des philosophes de couleur ou des philosophes trans, ils reçoivent des menaces de mort, mais par centaines chaque jour. Si vous voulez, c'est aussi un problème des réseaux sociaux et du débat public tel qu'il est aujourd'hui, que les gens se sentent beaucoup plus autorisés à de la violence verbale, etc. Et je vois pas très bien, si vous voulez, quel est l'objectif stratégique de cette tribune. Je comprends pas. Stratégiquement, je suis perplexe. C'est-à-dire que je me dis, même comme disait Thomas Chatterton Williams, il y a une question de timing, si vous voulez. Là, on est dans une situation aux États-Unis où il se passe tellement de choses catastrophiques, mais catastrophiques. En France, on se rend pas tout à fait compte, mais là, il y a une statistique qui est sortie il y a deux jours qui dit que 32% des Américains n'ont pas pu payer leur loyer en juillet et vont donc être expulsés de leur maison. Plus de 5 millions d'Américains ont perdu leur assurance santé. Un enfant américain sur 5 à faim aujourd'hui. Si vous voulez, je comprends pas comment ces 150 personnes se sont dit « Non, s'il y a vraiment quelque chose contre lequel il faut qu'on se mobilise de façon vraiment importante et qu'on fasse une déclaration publique internationale, c'est le risque que courent certains journalistes conservateurs qui disent des choses contre lesquelles il y a ensuite un backlash sur les réseaux sociaux.
Thomas Chatterton Williams vous répond justement sur ce point.
Do we pretend that this is the most important point in the world?
Que c'est la priorité des priorités, le propos de notre lettre? Non. La chose la plus importante au monde dont il faut se préoccuper tous et maintenant, c'est le changement climatique. Mais il n'en demeure pas moins que nous parlons un petit peu trop de la liberté de parole, mais en réalité, il s'agit de la pensée libre, la liberté de penser. C'est ça qui compte le plus.
Et
les gens commencent à s'auto-censurer dans un climat où il y a la pandémie, la crise économique et ainsi de suite. Il faut que les gens puissent penser librement sans s'auto-censurer.
Et vous pensez que, pour l'instant, ça n'est pas le cas, Thomas Chatterton-Williams, c'est-à-dire que les gens ne pensent pas librement ou penseraient moins librement aujourd'hui qu'ils ne l'ont fait plus tôt.
À mon avis, il y a une véritable différence par rapport à 2016. Les abus de la droite et de Trump ont déstabilisé les réactions de la gauche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de liberté dans le milieu de la culture et dans le milieu de la presse qu'avant.
Et
depuis la mort horrible de, enfin la tuerie, l'assassinat de George Floyd et les manifestations nécessaires contre la violence policière, nous avons assisté à une vague permanente de réactions au sein de nos institutions culturelles et dans le cercle des critiques littéraires et dans d'autres institutions culturelles qui ont évolué très rapidement, et cela a généré beaucoup de peur en réalité dans ces milieux.
Est-ce que, par exemple, la situation de New York Times, très grand journal, et en particulier la situation des pages opinion du New York Times, on évoquait tout à l'heure avec Manon Garcia la démission de James Bennett de son poste de rédacteur en chef après la publication d'un article du sénateur de l'Arkansas qui s'appelait Tom Cotton, il avait déclaré ne pas avoir lu cette tribune et avoir été publiée. C'était une tribune qui demandait à ce que l'armée puisse intervenir vis-à-vis des manifestations. La révolte du personnel du New York Times a été très importante, puisque je crois qu'il y a eu 800 signataires contre la publication de cette tribune et contre cette tribune. On a vu hier démissionner donc Barry Weiss, qui était chargé justement de ces pages opinion du New York Times. Est-ce que le fait que le New York Times est un journal qui s'est élevé contre Donald Trump, qui est un journal suivi par la gauche américaine en particulier, est-ce que la situation au New York Times n'a pas focalisé le regard justement de votre tribune, de votre lettre, sur cette question de ce qu'est ce journal, de son importance dans le débat public américain et de ces pages opinion que vous lisez comme beaucoup quotidiennement.
La situation du New York Times n'a pas été trop de focus dans votre lettre. Est-ce qu'il y a trop de connexion entre ce qui se passe dans le New York Times et votre lettre?
La situation du paper de record est une que tout le monde doit faire attention.
Cette lettre, nous n'avons pas écrite suite à ce qui s'est passé au New York Times avec la démission de James Bennett.
Mais
il y a eu quelque chose de critiquable dans la tribune. Ce n'est pas tellement la nature de la tribune qui est en cause, c'est l'ambiance qui règne. Par exemple, l'année prochaine, le New York Times a publié dans ses tribunes a publié une tribune sur Modi, qui est connu pour maltraiter grand nombre de musulmans dans son pays. Donc lui, il a publié une tribune sur Gandhi l'année dernière. Le New York Times a publié des extraits de Mein Kampf de Hitler. Donc les pages de tribune de New York Times ne sont pas connues pour être de gauche. Il y a tout un tas de points de vue qui sont exprimés dans le New York Times, dans la page tribune. Donc M. Cotton, lui, a publié aussi, comme d'autres. Et une dernière chose que je dirais, c'est l'un des rôles du New York Times, c'est de faire comprendre aux lecteurs ce que pense un bon nombre de sénateurs, par exemple, et donc permettre de donner à l'opinion publique ce que pense la classe politique américaine.
Alors, sur cette question, Manon Garcia, est-ce que vous pensez justement que certains organes de presse sont plus ou moins au centre de ce débat, le New Yorker, le New York Times ou d'autres journaux, tandis que d'autres comme le LA Times, le Los Angeles Times, a pris une position très opposée, puisque je crois que Mary McNamara, dans le LA Times, tout de suite après la publication de cette lettre, a dit « mais c'est un timing étrange », comme vous le disiez d'ailleurs, et que on se demande pourquoi cette lettre est sortie à ce moment-là, cette lettre signée par 150 signataires, dans un combat que les uns et les autres, puisque les signataires de cette lettre sont contre Donald Trump, que ceux qui sont opposés sont aussi contre Donald Trump. Donc, ce timing est un peu bizarre, dit le LA Times.
Alors, moi, je pense qu'il y a... Je voudrais revenir sur plusieurs choses. Bon, l'histoire de l'opède de Tom Cotton, c'est une histoire compliquée, mais comme vous l'avez dit, un des problèmes fondamentaux, c'est quand même que la personne qui était en charge de publier ce texte a reconnu, après coup, ne pas l'avoir lu avant l'avoir publié. Sa démission vient quand même du fait qu'il a fait une faute professionnelle grave qui s'ajoutait à des fautes professionnelles antérieures. Donc, dire... Il s'est fait virer parce qu'il a publié l'opède de Tom Cotton qui invitait à tirer sur la population noire. C'est une réduction de ce qui s'est passé en réalité. Ensuite, sur la question je pense que Thomas Chatterton Williams a raison de dire que le climat a changé depuis l'élection de Trump, mais parce que je pense que le New Yorker et le New York Times sont des journaux reconnus comme des journaux démocrates et que donc ils sont passés des journaux de la majorité et par conséquent dans lesquels on s'attend à avoir une pluralité de plus grande peut-être de points de vue à être des journaux de l'opposition et donc à donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole à Washington et ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et je pense que ça change quand même la ligne éditoriale d'un journal d'être un journal de majorité ou un journal d'opposition. Après, ce que je trouve compliqué quand même dans cette tribune, c'est que Trump a fait un discours à Mount Rushmore pour le 4 juillet où en fait il a dit quasiment mot pour mot ce que dit cette tribune. Il dit que le problème de comme vous l'avez dit, l'émission de ces fascistes d'extrême gauche, c'est que ils font en sorte que les gens soient renvoyés de leur travail, ils couvrent de honte ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et ils demandent une soumission totale de la part de quiconque est en désaccord avec eux. Donc il me semble que le problème, c'est que cette tribune dit « non mais nous, on est vraiment contre Trump, mais quand même, ce qui se passe à gauche est problématique », en employant exactement la rhétorique utilisée par Trump pour décrédibiliser les mouvements de justice sociale. Donc ça, je trouve ça compliqué et je pense que c'est intéressant de réfléchir à cette question de manière générale dans l'histoire des mouvements sociaux, en particulier aux États-Unis, de cet appel à la civilité ou à la politesse. Et c'est vrai que, par exemple, on a cette idée que le mouvement pour les droits civiques, vraiment, Martin Luther King, il était très gentil et très poli et que c'est pour ça que ça a marché. Mais en fait, les historiens montrent que ce n'est pas le cas. Et dans le texte que Martin Luther King écrit depuis la prison de Birmingham, il dit que ce qu'il appelle le blanc modéré, alors évidemment là dans cette lettre il y a plein de gens qui ne sont pas blancs qui ont signé, mais qui représentent un peu cette aile modérée, est plus dangereux pour la cause des droits civiques que le Ku Klux Klan. Donc c'est quand même une position très forte qu'il prend à ce moment-là, parce qu'il dit le problème c'est qu'ils sont plus dévoués à l'ordre qu'à la justice et qu'ils préfèrent la paix négative qui est l'absence de tension à la paix positive qui est la présence de justice. Donc moi je suis d'accord avec l'idée de Thomas que la liberté est importante, etc. Mais je pense que c'est quand même important de se demander quelles sont les priorités et est-ce que vraiment l'appel à la civilité est le plus important, parce qu'on voit bien, c'est quelque chose qui a été utilisé contre les féministes, toujours de dire « Oh, ma jolie, moi je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même pas se mettre en colère comme ça. Et puis, tu vois, c'est vraiment de la misandrie. C'est quand même toute cette idée que les féministes sont misandres, qu'elles sont hystériques, qu'elles sont en colère. C'est quelque chose qui a été systématiquement utilisé pour crédibiliser le combat féministe. Et c'est pareil avec le combat pour les droits civiques. Donc je trouve ça problématique stratégiquement.
Manon Garcia, Thomas Chatterton Williams vous répond justement sur cette question de la politesse, du ton à employer. Je crois qu'il y a d'ailleurs le tone policing, la police du ton, justement le ton à employer pour avoir une bonne discussion, un bon débat.
Il va sans dire que c'est malheureux et cynique que Donald Trump utilise le langage de la cancel culture. Utilise le même vocabulaire. C'est pourquoi nous, on a évité d'utiliser ce terme de cancel culture en anglais pour justement nous distinguer de Trump. Mais s'agissant des droits civiques, Bayard Rustin, qui a dit, si le soleil brille et que quelqu'un dit le contraire, moi je dirais toujours que le soleil brille, parce que moi, ma loyauté, je la dirige envers la vérité. Par conséquent, s'il y a un problème de cancel culture ou d'humiliation publique, si vous voulez, et que Trump l'exprime, je ne vais pas m'arrêter de le dire parce que Trump dit ça à lui. S'agissant de la tonalité, de la civilité, de la modération et des modérés blancs auxquels le Dr. King répondait depuis la prison de Birmingham, cette lettre n'est pas signée par des blancs. Elle est signée par des arabes, des juifs, des blancs, des trans, des gens hétéros, Noam Chomsky, Francis Fukuyama. Donc, on ne peut pas faire plus divers sur le plan idéologique. Ce n'est pas des modérés blancs qui demandent la modération, non.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime.
France Culture, le ton du débat. Emmanuel Laurentin.
Vous écoutez France Culture, le temps du débat d'été. Et aujourd'hui, nous nous posons la question de la cancel culture. Qu'est-ce que la cancel culture? Eh bien, cette culture de l'annulation, de l'humiliation publique. On a du mal à la traduire en français, en tous les cas. Mais c'est une culture, effectivement, qui nous vient des États-Unis, qui est très débattue aux États-Unis. Surtout depuis la publication, c'était le 7 juillet dernier, dans le Harper's Magazine, et puis ensuite traduit dans de nombreux journaux du monde entier, dont Le Monde, dès le 8 juillet. Eh bien, d'une tribune signée par 150 intellectuels, écrivains, surtout américains, mais pas simplement américains, qui donc s'inquiétaient de l'état du débat public et de la possibilité ou non de continuer à exercer la liberté de ton qui est nécessaire dans un pays libre. Et nous avons avec nous Thomas Chatterton Williams, qui est un des organisateurs de cette tribune donc dans le Harper's Magazine, et avec nous Manon Garcia, qui est chercheuse à la Society Fellows of Harvard, qui est philosophe, et qui donc discute avec lui de cette question-là. Une des questions que posait à l'instant même, c'était au début de cette émission, Thomas Chatterton Williams, c'était la possibilité, Manon Garcia, d'une importation de ces notions, de ces débats ailleurs qu'aux États-Unis. Il disait la Grande-Bretagne, mais la France aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, on a du mal à traduire ces concepts, aussi bien la tone policy que la cancel culture. Qu'est-ce que vous pensez justement de la possibilité que ces débats puissent venir en France ou soit déjà chez nous, alors que nous ne les verrions pas?
Alors, bon, pour commencer, moi, je suis un peu... je pense qu'il faut faire attention avec le terme de cancel culture et D'une part, pour les raisons pour la raison qu'a donné Thomas Chatterton Williams, que c'est utilisé par la droite, mais aussi parce que c'est un terme utilisé pour mettre plein de choses très différentes dans le même panier, pour mettre dans le même panier tous les cas où on demande à des gens de rendre des comptes pour les propos qu'ils tiennent et leurs effets dans le monde réel. Et je pense que parfois, c'est justifié de dire, ben voilà, si on tient des propos extrêmement racistes et que depuis son petit fauteuil de prof à Harvard qui a un salaire à vie, c'est vrai qu'on a un effet réel sur la vie des gens. Et d'autre part, je pense que ce qui est compliqué, c'est de présenter ça comme une culture, parce que ça implique, c'est un peu une façon de dire que les activistes sont un peu comme des enfants qui sont dans une culture générationnelle. Ils peuvent pas s'empêcher de tweeter en étant pas contents parce que leur sentiment, parce que ils seraient un peu vexés de ce qu'ils auraient entendu. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce terme. Mais après, sur la question de manière plus générale, je dois dire que je pense qu'on est quand même loin de ce danger en France, ne serait-ce que parce que, enfin, je veux dire, si un ministre accusé d'avoir et ayant reconnu qu'il avait échangé des services sexuels contre une aide politique peut être de l'intérieur, alors même qu'une enquête sur lui a lieu, on peut penser qu'il y a quand même de la marge avant que les gens aient l'impression qu'ils ne peuvent plus rien dire. De la même façon, enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y a dans le débat public en France des propos racistes, sexistes, homophobes qui sont tenus de manière régulière sans que cela mette en danger la carrière des gens. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a un mouvement progressif vers la prise en compte d'inégalités de genre, de race, de classe, et que ça fait que les gens qui sont concernés pensent que certaines choses ne devraient plus pouvoir être dites publiquement. Et je pense que c'est vrai qu'en France aussi, progressivement, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, et d'une certaine manière, c'est tant mieux. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école normale supérieure et que je préparais l'agrégation de philosophie, j'avais un professeur que j'aime beaucoup par ailleurs qui faisait très régulièrement des blagues sexistes pendant les cours. Des blagues sexistes tout le temps. Bon, il se trouve que moi, à l'époque, je me sentais pas légitime à lever la main et à dire « maintenant, ça suffit ». Je pense que dans les générations plus jeunes, ça poserait... les jeunes femmes interviendraient plus probablement que moi, je ne l'ai fait. Parce que moi je l'ai fait en aparté avec ce prof plus tard, mais pas directement, et d'une certaine manière peut-être que ce prof aurait à rendre des comptes devant l'administration de certains propos problématiques tenus en classe, peut-être. Et au fond, est-ce que c'est un problème? Je suis pas sûre.
Thomas Chatterton Williams, sur cette question de l'importation ou de l'arrivée en France de cette cancel culture, qu'il ne faut pas appeler cancel culture, on a compris, parce que c'est utilisé par l'alt-right et par Donald Trump, mais néanmoins c'est comme ça qu'on l'appelle pour l'instant, sur l'importation de ces concepts, de cette liberté de débat qui serait restreinte, que l'on vivrait aux États-Unis et qui pourrait déjà être ici, vous qui vivez en France et qui connaissez la société française, est-ce que vous pensez que c'est déjà là?
Non, la liberté de parole est bien plus grande en France qu'aux États-Unis à l'heure actuelle. La France, c'est une société différente parce que le concept de liberté d'expression est différent. Et on peut avoir des peines criminelles en France, ce qui est inconcevable aux États-Unis à l'heure actuelle. Mais en dehors de ces cas criminels, ici, la liberté de s'exprimer beaucoup plus grande ici en France. Hier, il y a eu un article dans le New York Times sur l'importation de la façon dont les Américains parlent de la question raciale et si ça pourrait être importé en France. Et cela, il faut le voir contre l'idéal républicain et le cadre, en fait, sociétal qui a toujours été différent en France. Donc, je pense que les Français qui s'intéressent à ces questions devraient suivre de près ce qui se passe aux États-Unis parce que le mouvement existe. Il y a une espèce de progressivité de l'importation tout de même.
Et puis il y a un rôle tout à fait particulier qui est souligné d'ailleurs dans un article de du journal québécois Le Devoir qui rend compte de ce débat qui est lancé par vous. Ils disent il y a trois éléments, trois phases. La dénonciation des comportements répréhensibles, première phase. La deuxième phase, l'emballement des médias sociaux. Et la troisième phase, des organisations qui se dissocient ou qui ne se dissocient pas d'une personnalité accusée qui n'obtient plus le soutien populaire parce que justement elle est accusée. Trois phases, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon dont le journal Le Devoir du Québec...
D'accord. Oui, ça fonctionne comme ça.
Oui. Et donc, ce rôle, par exemple, des médias sociaux, des réseaux sociaux, Manon Garcia, est-ce que vous pensez que c'est un rôle amplificateur de ces questions?
Oui, je pense que c'est indéniablement un rôle amplificateur, mais c'est un rôle qui est à double tranchant. C'est-à-dire que, d'un côté, évidemment, il faut parfois se mettre à la place des gens qui ont dit quelque chose qui n'allait pas, et qui tout d'un coup se retrouvent avec des millions de gens qui leur disent « tu devrais mourir ». Quoi. Ce qui a été le cas, par exemple, là, récemment, avec... je vais pas donner de cas américain parce que c'est trop compliqué, mais je pense que c'est sûr que c'est très traumatique pour les gens qui se retrouvent face à ce déferlement d'accusations sur les réseaux sociaux. Mais ce que les réseaux sociaux permettent aussi, c'est de donner une voix à des gens qui d'habitude n'en ont pas et à des gens qui font l'objet aussi de marginalisation institutionnelle. Et je pense que c'est aussi une critique que j'ai à l'égard de la lettre de Harper, c'est que les gens qui ont signé cette lettre sont des gens qui ont beaucoup de pouvoir, qu'ils soient académiques, journalistiques, culturels, et j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas en compte qu'une des vraies Un des vrais obstacles de la liberté d'expression aujourd'hui, c'est que c'est l'élite qui a le pouvoir, le pouvoir de s'exprimer. Bon, ça a toujours été le cas, mais on peut se poser la question. Ça a été l'objet de la grosse réponse écrite par des journalistes de couleur à cette lettre, de dire mais vous prenez pas en compte le fait que les journalistes noirs historiquement n'ont pas eu le droit de couvrir des questions politiques parce qu'on leur a dit qu'ils étaient biaisés. Donc il y a toute une question comme ça.
Je donne la parole parce que nous arrivons au terme de cette discussion à Thomas Chatterton-Williams sur ce point.
Oui, les journalistes noirs de Pittsburgh qui ne peuvent pas couvrir les questions politiques, ça fait partie du problème d'ailleurs, c'est une grosse préoccupation pour nous, oui. Colin Kaepernick, c'est la personne qui est la plus victime de cette politique de l'humiliation publique, et Donald Trump, lui, évidemment, est responsable aussi. Et je suis d'accord avec Manon sur bien des points. Cela dit, les choses sont un petit peu plus compliquées. Ce n'est pas les élites ou pas les élites, la question. Il y a eu des études qui montrent que 80% des tweets sont créés par 10% des gens qui tweetent. Et les gens qui utilisent Twitter et font déferler des messages sur Twitter, en fait, c'est un jeu de pouvoir. Twitter ne donne pas simplement une voix. Twitter déforme la réalité de la pensée des gens.
Merci. Malheureusement, on doit interrompre cette discussion. Merci beaucoup à vous, Thomas Chatterton-Williams, d'être venu. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain américain, que vous vivez en France. Vous êtes auteur de Autoportrait en noir et blanc qui sortira chez Grasset en février 2021, mais également d'un livre déjà sorti qui s'intitule Une soudaine liberté, qui raconte justement votre propre itinéraire au sein de la société américaine. Et quant à vous, Manon Garcia, merci d'avoir accepté de dialoguer depuis les États-Unis avec Thomas Chatterton-Williams. Vous êtes autrice de On ne n'est pas soumise, on le devient. Merci à toute l'équipe du Temps du débat d'été, Sophie Alavi, Mathilde Tonfourcade, Pascaline Bonnet, Audrey Dugas, Nicolas Berling, et à la technique aujourd'hui, Swad Boukorza était avec nous, Anne de Pelchin à la réalisation. Ne manquez pas demain matin les matins de France Culture présentés par Chloé Cambrelin. Comme un grand air de vacances, on parlera avec Martin de la Soudière et Valérie Chansigaud de nature, de paysage et de grand air. Et ça nous fera du bien d'ailleurs en plein milieu de ces vacances. Et puis demain soir, dans le temps du débat, à quoi sont liées les inégalités territoriales face à la Covid? Nous allons parler effectivement des inégalités territoriales, que ce soit en Guyane ou encore dans le territoire métropolitain. Et merci à vous, Xavier Combe, de nous avoir accompagnés pour la traduction de ce débat.